Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité est faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Faut-il légaliser le cannabis en France? On en parle avec nos invités. Merci d'être fidèle à jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast.
Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue et a une forme d'efficacité. De l'autre côté, j'entends les préoccupations de santé publique qui sont émises par ailleurs. Ce n'est pas un sujet qui est léger. Donc, je souhaite qu'on puisse ouvrir ce sujet et je souhaite l'aborder de manière méthodique dans les semaines qui viennent. Mais je ne suis pas contre, pour un principe, là aussi, d'efficacité et de justice, au fond.
Vous venez d'entendre Emmanuel Macron en 2016. Le 1er avril dernier, après le Canada et la Californie en 2018, l'Allemagne est devenue le 5e pays au monde à légaliser totalement l'usage récréatif du cannabis. À ce jour, la France, qui est le pays le plus gros consommateur d'Europe, reste campée dans le flou de ses positions et n'ouvre toujours pas le débat pour une potentielle avancée. Eh bien, ce soir, on fait le point avec nos invités. Laurent Carilla, professeur Laurent Carilla, bonsoir.
Bonsoir Flavie.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de psychiatrie à l'hôpital Paul Brousse, spécialisé dans l'addictologie. Vous êtes porte-parole également de l'association SOS Addiction. Et je conseille votre livre, Docteur Addict ou pas, que l'on retrouve aux éditions Harper Collins. Vous connaissez votre voisin ?
Oui, je le connais bien.
Bonsoir Antoine Robin.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes réalisateur et vous êtes producteur du documentaire Cannabis, une enquête de Mathieu Kassovitz et Antoine Robin, que l'on peut retrouver donc sur France.tv en replay et que l'on retrouve également, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs propositions, on le retrouve également en format de 10 x 26 minutes, toujours sur le site de France Télévisions. Qu'est-ce qui vous a poussé l'un et l'autre justement à faire ce documentaire ?
Je connais Mathieu depuis quelques années et alors je crois que c'est un secret pour personne, mais Mathieu Kassovitz est consommateur de cannabis et je me posais plein de questions autour de la plante. Et par ailleurs, je rentrais du Canada il y a 2 ans et je le discutais avec un producteur au Canada et j'étais surpris de voir que dans ses locaux, des salariés recevaient des cartons magnifiquement emballés, super bien marketés, qui leur proposaient donc du cannabis. Alors d'ailleurs, il y avait un cannabis pour passer une bonne soirée, pour passer une bonne soirée en ami, pour soigner sa dépression. Et quand on rentre de France et qu'on sait qu'il est, alors aujourd'hui, beaucoup plus facile de se procurer du cannabis, mais que c'est une drogue complètement interdite, il y avait une espèce de décalage. C'est pour ça qu'on a été voir France Télé et on leur a demandé l'autorisation de faire le tour du monde pour aller voir ces pays qui justement avaient fait le choix de dépénaliser ou de légaliser, et quelles en étaient les conséquences, et ensuite de revenir en France, et d'essayer en tout cas d'ouvrir le débat, parce que aujourd'hui, la porte est complètement fermée
voilà,
sur ce sujet.
C'est ce que je disais.
Alors, merci de nous inviter pour en parler, Flavie.
Bah, on est ravis, et puis nous, on pense effectivement que c'est un sujet en plus dont il faut parler et qu'il faut connaître pour se forger une opinion. D'ailleurs, je pense que c'est le but aussi de votre série documentaire. Hein. C'est, on le verra, mais vous êtes allé voir à la fois des consommateurs, à la fois des dealers, à la fois des professeurs pour faire un état des lieux. Et on va essayer aussi de le faire avec nos invités ce soir. Justement, Laurent Carilla, vous l'avez vu ce documentaire
hein. Bien sûr.
Et vous y participez parce que clôturer 5
à la
épisodes,
série.
Professeur.
Ouais, ouais, ouais,
justement,
ouais,
c'est hyper intéressant parce que je disais qu'il fallait connaître le sujet pour pouvoir finalement se forger une opinion. Est-ce que cette série doc permet cette avancée-là ?
Tout à fait, il y a un intérêt pédagogique au documentaire. Donc,
parce qu'on manque encore de pédagogie aussi en France ?
En France, on est entre les deux. Il n'y a pas de juste milieu. On est dans les très contre et les très pour.
Ouais.
Et c'est un combat permanent. Tout le monde se déchire sur les réseaux sociaux. En fait, pour l'opinion publique, ceux qui ne connaissent pas trop, je pense que c'est un bon document pédagogique.
Justement, on entendait Emmanuel Macron en 2016 dire « Moi, je souhaite ouvrir le débat dans les semaines qui viennent ». Est-ce que vous avez, vous, professeur, à ce moment-là, eu un espoir en vous disant « Bon, ça y est, ce sujet dont on s'occupe, nous, en tant que thérapeute, on reçoit des jeunes, on y reviendra, on reçoit des gens qui tombent dans l'addiction, ce sujet va enfin être mis sur la table ». Ça n'est toujours pas le cas.
Non, c'est toujours pas le cas. Ce qui est le cas, ce qu'il faut souligner, c'est que il y a en ce moment une expérimentation du cannabis médical, du cannabis thérapeutique, qui a été ouvert il y a 2 ans et qui va se finir là en fin décembre 2024. Et ça, c'est une vraie avancée dans les différents centres ce cannabis médical.
Oui, et on y reviendra justement parce qu'il y a plusieurs utilisations de cannabis. Avant de nous interroger justement sur la situation de la France et de la comparer aux autres pays, on va poser les bases de chez nous en chiffres. Aujourd'hui, on a combien de consommateurs de cannabis en France ?
On dit 5 millions d'occasionnels, 1 million de fréquents.
C'est 900 000 fréquents à peu près. Ouais.
Ouais. D'accord, 17 millions de Français ont déjà expérimenté.
Ouais. Oui, ça a expérimenté, c'est goûté une fois.
D'accord. Il y a 4000 points de deal en France.
Alors, trois maintenant depuis l'opération Place Nette.
Alors, l'opération Place Nette d'Emmanuel Macron, justement, que l'on va entendre un petit peu plus tard. Maintenant, il y a 3000 points de deal en France, puisque 1000 entre-temps, donc visiblement, ont été dégagés, je dirais. C'est quand même deux fois plus que de McDo. Donc, ça en dit long sur la situation. Ce que l'on apprend aussi à travers votre documentaire, c'est que la drogue, elle était légalisée en France, en fait, jusqu'à un drame dans les années 70. Écoutez.
Il n'y avait pas que la mer, le soleil et les chansons sur la Côte d'Azur cet été. Il y avait aussi la drogue. Martine, 17 ans, est morte à Bandol. Jean-Claude, à La Ciotat. À Marseille, les policiers ont saisi 590 kilos d'opium et arrêté les trafiquants. Ce redoutable fléau, qui nous vient de l'étranger, choisit ses victimes dans tous les milieux. Martine vivait avec sa mère et son grand-père dans cette jolie villa. Ses camarades de jeu, aujourd'hui en prison, sont issus de familles modestes. Plusieurs d'entre eux habitaient ces HLM.
Et là, tout a changé. En fait, ce drame de Martine a complètement heurté l'opinion française. Et finalement, Pompidou a décidé d'interdire les consommations de drogue en France.
D'abord, il y a un petit contexte. On est peu de temps après 68. La France est encore traumatisée sur tout l'établissement. Avec ces jeunes qui sont donc quand même considérés comme des fumeurs de joint, qui ont quand même lancé des pavés face à les CRS. Et c'est vrai que le drame de Martine, donc, retrouvé à Bandol avec une seringue dans le bras en overdose.
C'était de
l'héroïne.
Ouais.
Ça a provoqué, ça a fait la une, évidemment, tous les journaux. La jeunesse de France est en train de mourir. Et donc, Pompidou a tapé du poing sur la table, a mandaté Chaban Delmas pour qu'une loi soit promulguée. C'est la fameuse loi de 69, publiée au décret en début 70, qui interdit l'usage et la consommation de toutes les drogues, sans distinction.
Une loi complètement has-been.
Alors justement, on va se retrouver parce qu'on va en parler ce soir. Vous allez nous dire pourquoi cette loi est has-been, Laurent Carilla. Certains ne savent pas exactement encore aujourd'hui ce qu'est le cannabis. Non mais c'est vrai.
C'est vrai.
En fait, on en parle. On en parle. Le THC, le truc et
le
tout.
CBD. Avant de faire l'enquête. Hein.
Bah oui, c'est
ah bon
ça.
Ah bon.
Non mais si vous êtes familier, Laurent Carilla ne l'est pas pour nous.
Et pourtant, j'ai deux ados. J'ai deux ados et je m'en étais pas préoccupé.
Allez, cours magistral dans un instant avec le professeur Laurent Carilla.
C'est quoi le cannabis? Le cannabis est une plante originaire d'Asie centrale, connue en Europe pour deux utilisations très différentes. Pour la production de fibres textiles, on appelle alors cette plante chanvre agricole. Elle permet de fabriquer des cordes, des habits ou des matériaux de construction. Mais aussi pour la production de drogue, cette plante est appelée chanvre indien.
Depuis que l'Allemagne a légalisé le cannabis, la question de la France revient sur le devant de l'actualité. Faut-il interdire, dépénaliser, légaliser ce que l'on appelle la weed? C'est ce que l'on se demande ce soir. C'est comme ça qu'on parle, professeur Laurent Carilla.
Weed, le shit, la beuh.
Mais c'est pas la même chose complètement, en fait.
Non, mais le cannabis a différentes dénominations. Elle est sous forme de résine, sous forme d'herbe, sous forme d'huile.
D'accord, ok.
Il y a plein de choses.
Bon, très bien. C'est quoi, alors? Vous êtes notre invité aux côtés d'Antoine Robin. Expliquez-nous, en fait, parce que le problème qui fâche, la question qui pose, qu'on se pose, c'est le fameux THC. Alors, donnez-nous un cours et expliquez-nous de quoi on parle.
Le cannabis, pour faire simple, le cannabis a plein de composés. C'est une plante, c'est une belle feuille, vous avez vu, c'est une super belle feuille. Bob Marley en faisait l'apologie.
C'est une feuille qui est sur plein de pulls.
Très belle feuille.
Enfin, et donc, marques utilisent...
Dans ce cannabis, il y a plein de cannabinoïdes. Il y a ce qu'on appelle le tétrahydrocannabinol. Le tétrahydrocannabinol, le THC, quand vous fumez un joint, ce THC va se fixer sur des récepteurs naturels qu'on a dans le cerveau, qui sont les récepteurs cannabinoïdes 1 et 2, et notamment le 1, et envahir le cerveau. Et donc, vous allez être défoncé. Vous allez avoir des effets...
C'est le THC qui nous défonce.
Mais quand vous fumez du cannabis, il y a aussi du CBD dedans, du cannabidiol. Et le cannabidiol a des vertus plutôt relaxantes, apaisantes. C'est l'inverse en effet clinique. Donc, vous voyez, un cannabis fumé, soit sous forme de résine, soit sous forme d'herbe ou d'huile, fortement dosée en THC, ça va vous défoncer. Il va avoir des effets psychoactifs.
Alors, qu'est-ce qu'on... Oui.
Et il va avoir aussi des possibles complications chez les gens.
Alors, on va parler des complications, mais ça veut dire quoi être défoncé ?
Défoncé ?
Parce que pour être tout à fait honnête, je ne
vous
sais pas.
Jamais fumé.
Non, mais
bon,
ça, j'ai tiré.
Personne n'a fumé dans ce
non,
studio.
Non, je fais partie des 17 millions de personnes qui ont déjà essayé.
Ah, vous avez déjà expérimenté ?
Oui, mais j'ai pas expérimenté ce que vous appelez être défoncé. Ça m'a rendu malade et ça m'a rendu alors agressive.
Vous avez eu ce qu'on appelle un effet paradoxal.
Voilà, et agressive.
Alors, donc, effet paradoxal. Voilà. Bon. Donc, quand on fume du cannabis. Pendant les 5 premières minutes, il y a des petits effets qui arrivent où on se sent un peu... Il y a quelque chose qui arrive. Entre 20 et 60 minutes, on sent une euphorie modérée. On est un peu sédaté, on est un peu fatigué, on a peut-être un peu envie de dormir. On peut rire aussi, on peut avoir des petits rires irrésistibles. Et au-delà de 60 minutes, soit on continue à être un peu désorienté, mais de non pathologique, soit on ne sait pas trop où on est, soit on a un allongement de temps de réaction. Par exemple, je vous donne cette carte et vous mettez du temps à la récupérer, vous voyez ? Vous voyez, c'est ça l'effet.
L'angoisse.
Et pour d'autres, ça peut aller jusqu'à des hallucinations. Et là, il faut s'inquiéter.
D'accord. Vous vouliez, Antoine Robert,
réagir ? C'est la question que vous avez posée tout à l'heure derrière, en entrant sur le plateau. Qui a déjà fumé ?
Oui, c'est vrai.
Et tout le monde est extrêmement gêné à répondre.
Mais oui !
Et c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, le débat est sclérosé en France. Ça reste le grand tabou. Pourquoi ? Parce que le cannabis, selon moi, c'est le premier acte de transgression pour un jeune.
Oui, c'est ça.
C'est le premier acte, un des premiers actes de révolte.
Tabac et alcool, quand même.
Oui, mais par exemple.
Oui, mais c'est vrai.
Je prends mon exemple avec mes ados. Ma fille rentrerait un soir un peu ivre. Je vais la réprimander, lui faire un peu la leçon, la morale. Si elle a fumé une cigarette, pareil. Là, pour le coup, je vais l'informer, lui dire qu'effectivement, consommer du tabac, notamment chez les plus jeunes, c'est extrêmement grave. Je ne sais pas quelle serait ma réaction si je découvrais dans une de ses poches une boulette de shit. Je pense qu'il y aurait un réflexe d'autoritarisme beaucoup plus prononcé, poussé que si cela concernait l'alcool.
Non, mais
est-ce que c'est parce que c'est interdit ?
Pour lesquelles on a tant de mal à en parler dans les familles.
Voilà, alors c'est le tabou seulement le problème d'en parler dans les familles, mais est-ce que vous réagiriez différemment si effectivement le cannabis était légalisé ? Est-ce que vous vous diriez, finalement, ça rentre dans la catégorie des petites réprimandes parce que c'est comme l'alcool et comme la clope ?
Autour du cannabis, on voit bien qu'il y a un halo, c'est le cas de dire, de peur, d'inquiétude, de crainte, de non-dit. C'est une plante, encore une fois, une drogue qui est souvent apparentée à. La rébellion, à la provocation, à la contre-culture.
Non, ce que vous disiez aussi, la transgression, cette idée de faire un truc que les parents ne veulent pas.
Quelque chose d'un peu sale pour les adultes et quelque chose de très transgressif pour les plus jeunes. Et ce qui était intéressant, notamment quand on était au Canada, donc un pays, comme vous l'avez dit, qui a légalisé depuis 2015, on a été voir des jeunes, parce qu'évidemment, le Canada, depuis 2000, fait de la prévention, notamment dès la classe de 6e.
C'est très bien.
Et Mathieu Kassovitz pose la question, est-ce que depuis que le cannabis a été légalisé, pose des questions à des adolescents, est-ce que vous continuez à en acheter ? Non, on n'en achète plus parce que c'est plus cool, c'est une drogue de vieux et donc on n'a plus l'impression d'être dans un mode de rébellion.
Laurent Carilla, on parlait de ces jeunes, je voudrais que vous écoutiez Robin, que Mathieu Kassovitz a rencontré. Robin, dont la vie a basculé, il l'explique.
T'as commencé à fumer avec qui ? Avec tes potes ?
En tout premier lieu, oui. C'était un moment où j'étais pas bien et un copain qui m'a dit « Ouais, tiens. »
T'as fumé à un moment où t'étais pas bien ?
Ouais, exactement, c'est comme ça que j'ai commencé.
Et là, le cannabis a amplifié ce mal-être ?
Vraiment, ça a été quelque chose qui m'a quand même beaucoup détruit sur beaucoup de choses. Et j'utilise bien le terme détruit au niveau de ma scolarité, au niveau de ma santé mentale, ça n'a rien arrangé. Mon rapport social aux gens, mes rapports sociaux, ça a été une horreur.
Alors, on l'entend là, Robin, lui, sa vie a basculé. On entendait il y a un instant Antoine nous expliquer, à un moment donné, ma fille, si elle rentrait à la maison le soir et que je voyais une boulette de shit, je l'engueulerais davantage que si elle a vu un coup.
La fille d'Antoine a probablement goûté déjà au cannabis.
C'est certain.
Alors voilà. Donc,
parce que dans le système de transgression, comme on dit chez les ados, il y a le tabac, maintenant qui a été un peu supplanté par aussi la cigarette électronique, on a vu les résultats de l'enquête en classe de l'OFDT, il y a l'alcool qui est toujours présent, c'est ça la transgression. Et le cannabis arrive derrière. Et il y a les autres substances, il y a la MDMA, le protoxyde d'azote, les boissons codéinées, etc. Donc il y a tous ces éléments-là qui rentrent en jeu. Et quand on entend Robin qui dit « Moi j'ai fumé, mais sa santé mentale elle est déjà dégradée à la base », c'est-à-dire qu'il fume de manière autothérapeutique, et enfin pour se soigner comme avec un médicament, et ça n'arrange pas les choses. Ça, c'est une autre catégorie.
Messieurs, on va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va poursuivre nos échanges sur l'antenne d'RTL. Vous allez voir, le cannabis, il est partout, dans tous les milieux, pour tous les usages et à tout âge. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Docteur, addict ou pas, c'est l'ouvrage du professeur Laurent Carilla qui est notre invité que l'on retrouve aux éditions HarperCollins. Un ouvrage pour les jeunes, un ouvrage pour les parents
pour
aussi,
le
pour pouvoir justement parler de notre sujet, le cannabis. Et puis je vous conseille en complément aussi, donc une petite dose de documentaire. Alors vous pouvez le prendre soit d'un seul coup, d'un seul avec le documentaire Cannabis, une enquête de Mathieu Kassovitz et Antoine Robin, notre invité disponible en replay sur France.tv. Et puis si vous préférez vous faire des petites doses, eh bien vous prenez 10 fois 26 minutes. Ben non, écoutez, c'est comme ça qu'on parle, professeur.
Flavie,
10 fois 26 minutes. Moi, je deal des émissions et je deal des informations
positives.
C'est positives et,
positive.
Et intelligentes.
Bravo.
Docteur, professeur Laurent Carilla, on a entendu il y a un instant un jeune homme qui s'appelle Robin, qui a rencontré justement Mathieu Kassovitz, qui parlait de sa vie sociale qui, à partir du moment où il a commencé à fumer, s'est littéralement écroulé. Sa vie entière s'est écroulée sous ses yeux. On sent que ce gamin a été addict. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe addict ou pas? Et puis, je voudrais que vous nous parliez des ravages de la consommation aussi de cannabis sur les cerveaux des plus jeunes.
L'addiction, moi j'utilise un moyen mnémotechnique simple, 5C, 12 mois. C'est 5 fois la lettre C, 12 mois, c'est tous les signes d'addiction. Premier C, c'est une perte du contrôle comportemental, donc avec le cannabis notamment. Deuxième C, c'est un usage compulsif, on ne peut pas s'empêcher de le faire.
D'accord.
Troisième C, c'est un craving, c'est un mot anglais pour dire l'envie irrésistible de consommer. Le quatrième C, c'est un usage continu. Et le dernier C, c'est des conséquences sur sa vie, sociale, physique, psychique. Donc, c'est le cas de Robin. Et ce qu'on entend dans le témoignage de Robin, c'est qu'il y a des problèmes, visiblement. Il y a une vulnérabilité sous-jacente.
C'est ce que j'allais vous dire.
Et elle est réveillée par cette consommation de cannabis qui est excessive.
Ok.
Vous voyez ?
Ok. Un terrain, en fait. Certains ont un terrain, d'autres ne l'ont pas.
Exactement. On est porteur de maladie. Et lui, le cannabis, a probablement... Au départ, c'est récréatif, c'est d'amusement. Et après, ça se chronicise, ça réveille, ça révèle.
Mais c'est un terrain... addictif ou est-ce que c'est un terrain fragile ?
Non, c'est un terrain psychiatrique.
Est-ce que le cannabis, quelque part, vient répondre à des besoins que pouvait avoir Robin ? Il n'y a évidemment pas répondu, mais il lui a donné l'illusion qu'il pourrait régler ses problèmes.
Je pense qu'au départ, c'est le modèle cinétique habituel, c'est-à-dire qu'on consomme avec des copains au collège ou au lycée, on augmente sa consommation, on s'accroche, on peut devenir addict au cannabis. Donc c'est une maladie.
Okay.
Et l'autre maladie, c'est que ça réveille quelque chose en dessous de psychiatrique.
Je comprends. Vous vouliez poser une question au professeur Carilla.
Ce qui m'a interpellé quand on l'a rencontré, alors il y a deux choses. Premièrement, c'était la grande lucidité qu'avait ce jeune homme qui est tombé dedans de manière extrêmement grave. Il l'a dit dès l'âge de 12 ans. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était le désarroi de la maman qui était complètement perdue, qui n'avait absolument aucune réponse à donner à son enfant, qui lui a avoué d'ailleurs sur le tard qu'il consommait de manière extrêmement fréquente. Ça, c'est les choses que vous rencontrez dans vos cabinets ?
Bah, nous, à l'hôpital, on rencontre des gens... Oui, on a donc de la famille, le noyau familial est perdu, etc. Mais l'idée, c'est de prendre en charge le jeune, avec ses problèmes addictifs, ses problèmes psychiatriques et ses problèmes physiques, parce qu'il y a des problèmes physiques aussi avec les consommations, que ce soit le cannabis ou autre chose, et prendre en charge la famille. C'est hyper important. Hyper important. Les familles sont perdues. Et il y a des groupes de parole comme Al-Anon, qui sont des groupes d'aide aux parents d'enfants addicts. Et c'est important vraiment, dans la prise en charge, les parents et l'entourage doivent être pris en charge.
Alors, on va voir dans un instant qu'il n'y a pas que les jeunes qui fument. En revanche, les ravages ne sont pas identiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe dans le cerveau d'un môme ? J'ai appris qu'il y avait des gamins de 11-12 ans. C'est le cas de Robin,
Il y en a très peu d'addicts à 11-12 ans.
D'accord, qui en même temps essayent.
Tout à fait.
À 11-12 ans.
Bien sûr, l'expérimentation, ça commence à peu près en quatrième.
Expliquez-nous. Quand on dit, par exemple, il ne faut pas fumer de pétard avant 20 ans.
Ce qui se passe, c'est que le cerveau fait sa maturation complète, sa puberté, moi j'appelle ça, sa puberté complète, c'est-à-dire que toutes les structures du cerveau sont matures entre 20 et 25 ans, c'est même 25 ans. Ça veut dire que tout ce que vous apportez avant comme substance, ça va fragiliser et martyriser le cerveau. Vous voyez, si vous fumez un joint à 15 ans, le THC va altérer certaines régions du cerveau. Elles ne vont pas être formées, l'architecture ne sera pas complète. C'est comme si, l'image que je prends toujours, c'est vous êtes devant une falaise, vous mettez des coups de pioche dans la falaise. Au début, ça s'effrite un peu. Vous continuez, il y a des cailloux qui tombent, vous continuez, il y a des blocs qui peuvent tomber. Et c'est un peu l'équivalent de ça. Plus on consomme tôt, plus on fait ça à son cerveau.
Et ça n'est pas rattrapable.
Ça dépend du degré de lésion, en fait. Ça dépend du degré d'atteinte, de la sévérité de l'atteinte. Si on a fumé une fois, deux fois, on va dire, c'est pas très très grave. si on répète, on consomme beaucoup, on consomme du THC très dosé, ça peut être très grave.
Et alors, quand c'est très grave, ça vient atteindre quoi ? Ça vient atteindre mes acuités ? Ça vient atteindre...
J'ai pas mon ordinateur, dommage, je vous aurais montré un cerveau.
Ouais. Non, mais ça vient atteindre quoi ? Mon intelligence, ma vivacité d'esprit, ma mémoire, ma capacité à me mouvoir
Tout à l'heure, je vous ai dit, le THC se fixe sur les récepteurs cannabinoïdes 1 et 2.
Oui.
Et dans le cerveau, il y a des 1 essentiellement, cannabinoïdes 1. Et ces cannabinoïdes 1, il y en a partout dans le cerveau. Et il y en a où ? Bah, dans les régions de la mémoire, de l'attention, de la concentration, du jugement, de la récompense, motrice, vision, tout partout. Il y en a partout. Donc vous imaginez qu'un cerveau non mature, vous lui amenez plein de THC, le cerveau, il ne comprend plus rien.
Un bon vieux cerveau ?
Un bon vieux cerveau, c'est-à-dire... Je pense,
il est déjà bien attaqué non, par d'autres choses.
Honnêtement, mais... je vous ai pas fait d'IRM au préalable, mais je pense que vous déjà, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai fumé, je suis devenu agressif, j'ai eu un effet paradoxal. Oui. Moi, je vous ferai pas refumer.
Oui.
Mais
ah bah non, j'ai
un cerveau en fait, d'adulte qui a pas trop de problèmes, qui fume comme ça avec quelqu'un un joint, a priori, il y aura pas beaucoup de problèmes.
Alors, on va se retrouver dans un instant parce que c'est ça qui nous intéresse justement, c'est comment est-ce qu'on consomme le cannabis en France, parce que l'Allemagne légalisé le cannabis récréatif, mais il y a aussi le cannabis thérapeutique. Et qui justement consomme ? Eh bien, ce sera dans un instant avec vous sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
On profite de la présence du professeur Laurent Carilla pour poser des questions qui ont circulé aussi au sein d'RTL quand j'ai dit aujourd'hui on va aborder le sujet du cannabis en France et la position de la France face à la légalisation ou la dépénalisation. Oui. On verra toutes les différences dans un instant. Certains m'ont posé des questions. Un truc qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui en France, on peut donc consommer du CBD. C'est la substance non nocive.
Elle n'est pas addictive.
Le cannabidiol,
c'est une des substances de la plante cannabis.
Et ça a plein de vertus différentes et on peut en consommer. C'est-à-dire que ça peut détendre, ça peut relaxer.
Voilà.
Donc il y a des magasins qui ont poussé comme des champignons depuis qu'on peut, depuis qu'on peut avoir accès au CBD. Mais le CBD, ça a la même odeur. Moi, je croise parfois des gens dans la rue et je me retourne en me disant mais ils sont en train de fumer un pétard dans la rue alors qu'en fait, non, ils fument du CBD. Ouais. Comment est-ce qu'on fait la différence lorsqu'il y a un contrôle ?
Alors,
puisqu'on n'a pas le droit de fumer
alors,
des pétards.
Il peut avoir un tout petit peu de THC dans le CBD avec une dose autorisée, mais qui est très 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 faible.
D'accord.
Et le problème, c'est que il peut avoir, le test peut être positif. Donc faut
et même prudent. Visuellement, c'est-à-dire que
les policiers sont pas capables de faire la différence.
Ouais, c'est difficile.
Voilà. Il faut le sécher pour bien montrer que vous avez acheté du CBD. Sinon, vous êtes potentiellement contre.
Parce qu'il y a un tout petit peu de THC dedans.
D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que d'accord, mais quelqu'un qui se fait arrêter avec dans sa poche un sachet dans lequel il y a donc du CBD, c'est les fleurs, c'est
ça,
de CBD.
Ouais.
Il se fait arrêter. Comment est-ce qu'il peut justifier que c'est
preuve d'achat,
dépistage biologique et puis
très bien.
Preuve d'achat, sinon.
Ok. J'ai bien compris,
forfaitaire.
Ça y est. Bon, alors, dans votre série Doc, qui est disponible sur le site de France TV, Antoine Robin, Mathieu Kassovitz rencontre Franck, c'est un jeune chimiste.
Moi, j'ai une sclérose en plaques, ouais.
Ça veut dire ?
Donc, une sclérose en plaques, en gros, c'est une maladie immunitaire, auto-immune, en fait. Donc, ton système immunitaire, il bouffe ton système nerveux.
Et le cannabis t'aide
à supporter les douleurs. C'est ça, ouais.
D'accord.
Sinon, j'ai des douleurs chroniques, en gros. Et je suis fatigué et j'ai pas de morale.
Et tu dis que le cannabis que tu prends d'une manière illégale aujourd'hui, puisque c'est pas autorisé, t'aide à mieux vivre ?
Ouais, bien sûr.
Complètement ?
Ouais. Bah moi, aujourd'hui, c'est mon seul traitement.
C'est ton seul traitement ?
Ouais.
Laurent Carilla, il y a plusieurs façons de consommer le cannabis. Là, on est clairement dans la consommation thérapeutique ?
Lui, il consomme seul, de sa façon. Il n'est pas dans un process d'expérimentation comme il y a actuellement. Mais le cannabis médical, c'est pour des indications très précises. Hein. C'est des douleurs neuropathiques, résistantes au traitement. C'est des douleurs résistantes au traitement de maladies qui font très très mal. Donc des douleurs neuropathiques, donc d'origine neurologique, des douleurs spastiques qu'il y a comme dans la sclérose en plaques. Oui, il y a des douleurs partout, ça fait mal. Il y a des douleurs rebelles dans le cancer ou des douleurs rebelles à cause des traitements anticancéreux. Vous voyez, on est plutôt... Cette indication médicale, elle est là.
D'accord, mais ça veut dire que c'est le médecin qui délivre une ordonnance en disant...
Oui,
vous
mais là, c'est
avoir...
pas encore autorisé, c'est expérimenté. Okay. Et ce qui est expérimenté en France jusqu'à fin décembre 2024, ça va être la vaporisation des fleurs de cannabis ou de l'huile, de l'utilisation d'huile.
D'accord.
Donc c'est ces deux éléments-là qui sont utilisés. La vaporisation, pourquoi ? Parce que c'est pas de la combustion, on fume pas un joint. Parce que vous savez que quand vous fumez un produit, c'est ça qui est nocif pour le poumon, le sang et les muscles.
D'accord, ok. Donc ça se présentera sous des formes complètement différentes.
Vaporisé ou huile.
Ok.
Essentiellement.
Flavie, le gros paradoxe quand même, le jeune homme qu'on vient d'entendre, c'est donc il a la tête d'un des 5 laboratoires autorisés en France pour étudier la fleur, et donc il consomme de manière illégale du cannabis pour soigner ses douleurs liées à sa sclérose, alors qu'il existe un médicament dans d'autres pays, puisque nous, en termes de recherche, on est à l'âge de pierre, puisque on va pas financer ce qui est considéré en France comme une drogue, là où le Canada, par exemple, ils ont notamment monté un département au sein du ministère de Santé Canada, où ils ont des chercheurs qui, toute la journée, travaillent sur cette plante qui a des vertus visiblement assez magiques.
Donc des vertus magiques, en même temps des vertus nocives, aujourd'hui qui sont ceux qui consomment en France. Je disais, il n'y a pas que ces jeunes dont on parlait, que ce soit Franck qui utilise le cannabis pour soulager ses douleurs de la sclérose en plaques, ou Robin qui lui, malheureusement, est tombé dedans quand il avait 12 ans.
Il y a une géographie large de la consommation. Vous avez nos jeunes sont gros consommateurs, mais la consommation a un tout petit peu diminué en France. Elle reste présente. Les jeunes sont dixièmes en Europe, je crois, alors qu'avant ils étaient premiers. Vous avez les anciens fumeurs qui ont eu une trajectoire, ils sont mariés, ils sont en concubinage, ils ont des enfants, ils ont un travail, ils continuent un peu à fumer et ils n'ont pas de problème. Vous avez les malades psychiatriques qui fument et il y a des problèmes. Vous avez les addicts au cannabis, et ça existe, qui ont des problèmes d'addiction au cannabis, au tabac et à d'autres choses. Et vous avez des gens qui souffrent, qui n'ont aucun traitement qui marche et qui consomment et qui fument essentiellement ou qui vaporisent de manière illégale pour ne pas souffrir.
On le voit dans le documentaire aussi. Hein. L'autre aspect, c'est le trafic. Et on voit à un moment donné Mathieu Kassovitz qui va à la rencontre de fournisseurs. Alors, ce ne sont pas des dealers en fait. Eux, ils apportent...
Il y en a deux. Il y en a un qui distribue ce qu'on appelle sur le terrain, sur un four.
Voilà, exactement. Vous connaissez mieux.
Évidemment, dont on ne dira pas sa localisation, et puis un autre qui fait du Uber-Sheet, donc qui va livrer à domicile via une application.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même loin, dans certains cas, du deal dans la cage d'escalier ou dans l'obscurité d'un Porsche. Ça, c'est carrément professionnalisé.
C'est tout le problème de la lutte et des opérations place nette.
On va expliquer à ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais commandé. Mais non, mais on va expliquer ce qui existe parce que c'est incroyable.
C'est une application sur des messageries, telle WhatsApp ou Telegram, qui vous propose des menus avec évidemment la plante, sa teneur en taux de THC. Alors, est-ce qu'elle est avérée? Ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Avec des packagings qui sont extrêmement attractifs. Hein. Il y a même la tête du président. Il y a une collection Emmanuel Macron. Il y a une collection, d'ailleurs, Kassovitz, on a vu la haine. Et ensuite, il vous livre à domicile en moins d'une heure. Vous avez même un service après-vente. Donc, des gens qui vous répondent au téléphone si vous n'êtes pas content du produit ou s'il n'a pas été dosé suffisamment.
Mais c'est fou.
Donc, on voit bien que là...
Aujourd'hui, on peut commander, en fait, du cannabis comme on commande une pizza.
Il y a un niveau de sophistication qui est absolument hallucinant. C'est pour ça que les opérations plate-net ont de ça de limiter que demain, je pense que ces gamins qui sont parfois issus d'écoles de commerce passeront à l'IA, passeront à l'intelligence artificielle pour pouvoir vendre leurs produits, c'est évident.
Les opérations place-net, on va en parler dans un instant, on entendra Emmanuel Macron qui s'est rendu à Marseille justement dernièrement. Opération place-net pour justement paralyser ce réseau que l'on déplore et qui dit effectivement dit trafic, dit insécurité, dit ras-le-bol des riverains. Ce sera avec vous dans un instant sur RTL.
Puis on va prendre de nouveaux dispositifs pour aller jusqu'au bout, rendre la vie impossible aux consommateurs, rendre la vie impossible aux familles des plus jeunes qui servent de guetteurs ou autres et qui sont aussi des victimes de ces trafics. Et je le dis ici dans une ville qui, l'année dernière, a connu 49 crimes. Et c'est un fléau terrible, donc on n'y cédera rien.
Emmanuel Macron qui s'est rendu à Marseille dernièrement dans le cadre de l'opération PlaceNet XXL lancée par Gérald Darmanin. Emmanuel Macron qui précisera que parmi les 49 crimes qu'il a cités, certains n'avaient absolument rien à voir avec le trafic de drogue. Ce sont des personnes qui ont perdu la vie dans des règlements de compte. Alors là, on est à la radio, donc on ne vous a pas vu, mais on serait à la télévision, messieurs, Antoine Robin, professeur Laurent Carilla, il y aurait des caméras et on verrait vos mines...
La réalité des chiffres, Flavie.
Atterrées. Alors, Antoine Robin.
4 kilos saisis lors de cette opération plat de tête et on en consomme à peu près 200 tonnes par an.
Et nous, en même temps, 4000 points de deal et depuis les opérations place net, il n'en reste que 3000.
On a interviewé les représentants du syndicat majoritaire Alliance dans notre série documentaire, qui évidemment, eux, sont dans leur position de l'application de la loi Mazo pour lutter contre la consommation de cannabis. Mais en off, c'est pas ce qu'ils nous disent. Eux s'épuisent évidemment à courir après des petits dealers pour des barrettes de shit, alors qu'on sait que les têtes de réseau se trouvent souvent à Dubaï.
Oui,
et blanchi, ça coûte millions. L'argent, évidemment, issu de ce trafic, notamment dans l'immobilier. Là où, en plus, que ça coûte énormément à la société française. Hein. On l'évalue, la lutte contre le trafic de cannabis et de drogue, à entre 1 milliard et 1 milliard et demi. En plus, évidemment, de toute la partie, prison, incarcération. Donc, moi, j'aimerais croire notre président, j'aimerais croire notre Premier ministre, mais les chiffres sont là.
Alors, Laurent Carrilla.
La répression, ça sert à rien, Flavie. On le voit. On voit les résultats. Ça coûte hyper cher, tout ce problème. Il y a des malades. Il n'y a pas assez de recherche. Il n'y a pas assez de traitement. Il faut légaliser de manière encadrée le cannabis.
Voilà, on met les pieds dans le plat. Alors, on y va.
Et il faut utiliser les taxes induites pour faire de la recherche, de la prévention ciblée chez les jeunes.
Le système canadien, Laurent.
Exactement.
Alors, on va aller vers le système canadien. Mais c'est vrai que vous, dans votre série Doc, vous avez fait le tour des destinations qui se sont positionnées de façon différente de la France, donc sur cette question du cannabis. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Vous êtes allé à Amsterdam ?
Je serais moins catégorique que mon voisin, qu'il faut quand même tenir compte de la spécificité française.
On va parler de la spécificité française, mais qu'est-ce que vous avez constaté ? Par exemple, Amsterdam. Le cas de la Hollande et d'Amsterdam. C'est une ville qui a complètement changé de visage ces dernières années, avec des mesures sur le sujet.
Même Mathieu Kassovitz, qui a pourtant fait quelques voyages dans la capitale batave, n'a pas reconnu Amsterdam, a été extrêmement surpris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les années 70, quand les Pays-Bas ont décidé d'ouvrir les fameux coffee shops, donc ces lieux où est autorisée la consommation de cannabis, ils n'ont rien prévu en ce qui concerne l'approvisionnement de ces magasins. Et donc la loi est absolument absurde.
C'est ubuesque.
Puisque un propriétaire de coffee shop aux Pays-Bas peut être condamné dès lors qu'il est pris dans la rue en train d'acheter du cannabis pour approvisionner son propre magasin. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les années 70, c'est la mafia marocaine, la fameuse Mokro Mafia, qui a commencé à vendre du cannabis, puis évidemment après fabriquant ses routes, a vendu de la cocaïne, de la méthamphétamine. Et aujourd'hui, on considère que les Pays-Bas sont un narco-État. D'ailleurs, la tête de pont, Redouane Taghi, le Pablo Escobar marocain, a été condamné à la perpétuité. Mais la Mokromafia est toujours là. Et on a été, nous, extrêmement choqués de la situation, à tel point d'ailleurs que la maire d'Amsterdam aujourd'hui met une amende pour tous ces jeunes qui seraient surpris en train de divaguer sous l'emprise du cannabis ou de l'alcool dans les rues. Ils peuvent prendre jusqu'à 130 euros d'amende. Donc l'heure est grave aux Pays-Bas. L'heure est très très grave.
Alors vous avez fait les Pays-Bas et puis vous vous êtes rendu donc au Canada. Vous avez rencontré le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui a complètement légalisé le cannabis en juin 2019. Et après, justement, vous nous expliquerez tout ça, Laurent Carrilla.
Ça fait 5 ans que le Canada a un régime légalisé. La consommation des jeunes n'a pas augmenté. Et une partie des jeunes, maintenant, au moins, ont de l'accès à ou vont finir par consommer des produits qui ont été approuvés par Santé Canada, qui ont passé dans le processus réglementaire. Il y a moins de poids sur notre système pénal, moins d'incarcération des minorités liées à ça. Ça a été une amélioration. Il n'y a pas de raison d'avoir peur.
Alors, professeur Laurent Carrilla.
Oui, Flavie.
Une réaction aux propos de Justin Trudeau.
J'adore Justin Trudeau.
Oui. Alors lui, non mais attends, il a quand même révolutionné.
Bien sûr.
C'est le pays le plus peuplé au monde qui a été le premier à légaliser le cannabis thérapeutique. Alors pourquoi il a eu raison ? Expliquez-nous.
Il a eu raison parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une production de cannabis qui est complètement contrôlée, des taux de THC qui sont contrôlés, des quantités contrôlées, une vente contrôlée, la génération de taxes qui servent à quelque chose.
D'accord, ok.
Et ça, c'est important.
Mais comment est-ce qu'on transforme la société ? Avec juste une loi comme ça ? Juste une légalisation ?
On lui promettait du sang et des larmes. Hein. Ça a été un débat extrêmement vif au Parlement canadien.
Il a réussi.
Mais parce que c'est un système qui se met en place, j'imagine, sur le long terme.
Y a quand même des conseils, il y a un consensus, il y a différents types de personnes.
Oui, mais ça a suffi à inverser les choses au Canada.
C'est intéressant, Laurent, parce qu'en fait, lui nous dit, Justin Trudeau, qu'il a fait confiance à l'intelligence de ses citoyens.
Ouais.
Ils sont capables de s'auto-réguler. Et d'ailleurs, il était très surpris de nous voir. de voir des Français, parce que pour lui, il n'y a pas de sujet, il n'y a plus de sujet dans la société canadienne. Alors qu'à l'époque, encore une fois, je le redis, les débats avaient été extrêmement virulents. On entendait que les zombies allaient envahir Montréal, hordes de gamins complètement drogués allaient saccager les rues de Montréal. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est une vie. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que dans les rues de Montréal, on voit peu de gens fumer. Hein. Très, très peu de gens fumer.
À la différence de la Californie, quand même. Hein,
oui,
où on en sent beaucoup, mais pareil, c'est pareil, il y a un modèle
mais
autorisé.
Mais vous me dites, moi, je suis pro.
Moi, je suis pour la légalisation encadrée, je peux le redire
alors,
encore une fois.
Je voudrais qu'on fasse. Alors, on va se retrouver dans un instant, parce que légalisation encadrée, contrôlée, dépénalisation, il faut que vous nous expliquiez justement c'est toutes ces nuances. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Professeur Laurent Carilla, donc vous êtes pour la
légalisation encadrée ou contrôlée.
Alors, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. On parle du cannabis pour ceux qui arriveraient en cours de route et qui ne seraient pas là depuis le début, alors que le sujet est passionnant.
Passionnant.
Légalisation encadrée, contrôlée, dépénalisation du cannabis, c'est quoi tout
Dépénalisation, c'est sur la loi. C'est-à-dire qu'on ne va pas pénaliser, par exemple, le consommateur.
Okay.
On va dire, voilà, on ne pénalisera pas le consommateur si on l'attrape avec un peu de cannabis.
En revanche,
Or, ce n'est pas le cas.
Hein. D'accord.
Voilà, c'est cette loi de 70 qui est absurde.
Donc qui nous concerne aujourd'hui.
Bien sûr.
Ouais. Donc, aujourd'hui en France, on ne peut pas ni consommer, ni acheter. Tout
c'est
est interdit concernant le cannabis. La dépénalisation.
La dépénalisation, c'est, comme son nom l'indique, on ne pénalisera pas le consommateur de cannabis. Par exemple, si c'était sur cette question, parce qu'on ne va pas dépénaliser toutes les drogues. Là, on est encore sur...
Au Portugal, par exemple, si vous êtes arrêté avec un joint, vous passez devant un magistrat qui va vous demander de suivre un traitement thérapeutique avec un médecin.
D'accord.
C'est ça, dépénaliser.
D'accord.
Parce que le Portugal a fait face à un fléau d'overdose dans les années 70. Ils ont dû prendre des mesures extrêmement dures. Et le choix qu'ils ont fait, c'est pas celui de la répression, c'est de la dépénalisation.
Voilà. D'accord, ok. Ensuite, on a la légalisation.
La légalisation, c'est comme l'Uruguay, qui est un très beau modèle, comme
Luxembourg.
Malte, Luxembourg, l'Allemagne.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on change la loi et on dit, vous allez avoir droit de consommer une certaine quantité, avec un certain dosage, taux de THC, qui, je vous rappelle, c'est la substance qui donne tous les effets.
À partir d'un certain âge.
À partir d'un certain âge, dans des conditions particulières. Par exemple, il peut y avoir des cannabis clubs, des endroits où on va pouvoir...
Ça sera le cas en Allemagne.
Pardon ?
Ça sera le cas en Allemagne.
Ouais, ça sera le cas en Allemagne.
Cannabis club, ça veut dire des endroits où on peut aller consommer
acheter,
du cannabis.
Consommer.
D'accord,
voilà.
Ok.
Et la production est contrôlée de A à Z, c'est-à-dire de la plante à la vente.
Contrôlée par qui ?
Par l'État.
D'accord. Donc c'est ce que Justin Trudeau explique aussi, lui, concernant le Canada, en disant aujourd'hui, on sait aussi ce que l'on vend à nos consommateurs.
Bien sûr.
En fait, pour éviter que le marché noir continue à performer, il faut être capable de produire aux consommateurs habituels de cannabis un produit qui soit de qualité équivalente.
De très bonne qualité même.
Et là, il est même de meilleure qualité puisqu'il est bio, puisqu'il est contrôlé.
Bah oui.
Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que ceux qui sont en charge de cette production au Canada sont des anciens dealers.
Et
qui viennent du marché légal.
Ouais. Qui se recyclent du bon côté de l'histoire.
Ils sont très contents.
Mais attends, et Mathieu Kassovitz est allé, lui, justement, voir cette culture de cannabis. Bon, alors, pardon, mais il a l'air...
C'est un peu un diabétique dans une boulangerie,
effectivement.
Un peu ça.
On en a parlé au bureau tout à l'heure, parce que j'ai dit, mais en fait, il est là.
On en a enlevé, on a coupé.
Il découvre, en fait, et vous avez vu, professeur, ou pas ?
Je me souviens plus.
Il découvre les salles, et il est avec son téléphone, et alors il va de salle en salle.
T'as l'impression que... 25
terrains de foot, Euro Disney.
Ah ouais,
pour lui,
et là, Mathieu Kassovitz, il n'en croit pas ses yeux. On a l'impression qu'il arrive au paradis.
Ah ouais.
Et c'est quand même une séquence qui est assez...
Très
et en même temps, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que...
Exactement.
Dans ces cas-là, on considère... Alors je parle sous le contrôle du professeur Carilla, qu'on ne vend pas de la merde à ceux qui vont consommer.
Mais c'est le but, de cette légalisation.
Oui.
C'est le but.
Alors, ça n'a pas fait baisser la consommation
chez les
jeunes.
Alors, vous voulez savoir, justement.
Ça a fait légèrement augmenter la consommation des plus vieux comme moi qui se sont dit, tiens, c'est l'occasion de se refaire un petit joint là où, avant, on avait un peu oublié ce que c'était.
Oui, mais probablement des vieux comme vous, mais comme moi, ça ne pose pas de problème s'il n'y a pas de problème.
Non, c'est contrôlé.
Voilà.
C'est contrôlé.
Et est-ce que ça a pacifié aussi la société canadienne parce qu'il n'y a plus de trafic, parce qu'il n'y a plus ce que l'on déplore aujourd'hui, ces problèmes de sécurité comme à Marseille.
Ce que dit Justin Trudeau, qui est extrêmement polémique et que personne n'a repris, c'est que ça a fait changer la couleur des prisons. Là, j'allais dire, la représentation sociale et raciale des prisons canadiennes. Il y a moins de couleurs, il y a plus de blancs. Et donc lui, il en fait une question raciale, la lutte contre le cannabis. Et je pense que c'est un sujet qu'on aborde assez peu en France, parce que c'est un sujet, là aussi, un sujet tabou. Mais effectivement, on trouve beaucoup moins de petits dealers, et donc il peut consacrer une grosse partie des revenus économisés sur la lutte contre le cannabis à d'autres fléaux. Lui doit faire face au fentanyl, hein, la drogue des zombies. Et d'ailleurs, il est en train d'expérimenter du côté de Vancouver aussi la légalisation, dans certains quartiers, de la cocaïne. Il est en train de pousser, l'expérimentation jusque-là. C'est dire effectivement comment ils sont dans l'expérimentation permanente.
Ça coûte cher, vous le disiez, la lutte anti-drogue aujourd'hui, Laurent Carrida.
Oui, ça coûte.
Est-ce que ça pourrait être intéressant pour la nation française, justement, de à travers cette légalisation contrôlée, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, dans une période où on serre les vis et on nous parle de déficit, de problèmes d'argent, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui permettrait de faire des économies à l'État?
Moi, je pense que ça générerait beaucoup, beaucoup d'argent.
Bien sûr,
je suis pas un spécialiste de la médico-économie, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces taxes permettraient quand même une avancée notable. Moi, je parle pour ma paroisse, recherche, prise en charge, traitement, personnel.
Donc il y a tout à faire.
Mais évidemment.
D'accord. Et vous pensez que ça va se faire ou pas ?
J'adorerais.
Non mais d'accord, mais est-ce que vous pensez que c'est possible ? Parce que vous êtes l'un des professeurs, vous êtes spécialiste de l'addiction, et est-ce que vous êtes reçu ? Est-ce que vous êtes consulté ? Est-ce que ça avance un petit peu ? Est-ce que ça bouge de ce côté-là ou...
Ce qui a bougé, je vous ai dit, c'est l'expérimentation médicale du cannabis. Mais le reste, on ne peut pas dire que ça ait bougé, même si Conseil Santé Économie a publié un rapport en janvier de l'année dernière en faveur, mais il faut que le gouvernement se bouge.
Antoine Robin, le mot de la fin ?
Pas un ministre n'a accepté de répondre à nos questions. Donc ça dit beaucoup malheureusement, et Gérald Darmanin vient d'évoquer la possibilité de faire des tests salivaires dans les rues de France et de Navarre.
Total, hein.
Donc on en est loin. Mais encore une fois, je profite de la présence de Laurent pour dire que le travail qu'il fait est formidable en termes de prévention pour les plus jeunes, parce que dans cette séquence de répression, on a beaucoup parlé de répression. Son bouquin, ses podcasts sont d'utilité publique, il faut les écouter, il faut les faire écouter à ses adolescents.
Il vient de faire la promo que j'allais faire, c'est quand même un truc dingue ça. Maintenant mes invités font la promo des autres invités.
C'est vrai que ce podcast addiction est
parce
formidable.
Ce podcast addiction est formidable. Le livre Docteur Addict ou pas, on le retrouve aux éditions Harper Collins. Donc merci beaucoup professeur Carrida d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qu'il y a ?
J'adore que vous m'appelez professeur.
Ça me fait beaucoup. Je vous ai connu docteur, vous êtes assez professeur. Puis un jour vous avez décidé, parce que vous êtes un peu en garde alternée entre Faustine Bollaert et moi. Ouais. De temps en temps j'arrive à vous piquer à Faustine Bollaert, mais vous la saluerez.
Je viens quand vous voulez. Flavie.
Avec plaisir, merci beaucoup en tout cas. Merci Antoine Robin.
Merci à vous.
Je conseille votre documentaire à ceux qui nous écoutent, les jeunes. J'ai appelé mes fils en disant, les gars, regardez. Et alors attends, ils avaient déjà commencé à regarder parce que ça les intéresse. Cannabis, une enquête de Mathieu Kassovitz et Antoine Robin, c'est sur donc le site de France TV, mais vous pouvez également le retrouver en version 10 fois 26 minutes dans les pays différents, et c'est hyper intéressant. Merci à vous et à bientôt. Merci à toute l'équipe de Jour J, mes dealers de bonne humeur et d'information. Céline Bonnet, Quentin Azoulin, Bastien Robin et Marc Bisset. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.